DW, l'arbre à palabre.
Bonjour. En Libye, les tentatives pour résoudre le conflit se mettent en place, mais difficilement. À l'heure où je commence l'introduction de cette émission, ce mercredi 13h30 en temps universel, des tirs sont rapportés sur l'aéroport de Mitiga, le seul aéroport qui fonctionne encore en Tripoli, et on parle de tirs en provenance d'un des camps en conflit. Conflit entre les deux camps opposés, celui du militaire rebelle Khalifa Haftar et du Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. Le maréchal voudrait se voir reconnu commandant en chef de l'armée libyenne, un titre que Sarraj lui refuse sous la pression des milices de l'Ouest qui le soutiennent. Le riche pays pétrolier traverse cette crise depuis près d'une décennie, depuis la chute du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. L'Allemagne, qui recherche une stabilité en Libye en vue de résoudre le problème de la migration, a accueilli le 19 janvier 2020, une conférence qui a fait accepter le principe d'un cessez-le-feu. Mais comment faire respecter ce cessez-le-feu? L'envoi de troupes internationales est-il une solution? Et quel rôle pour les États africains voisins de la Libye qui subissent directement les conséquences de l'instabilité? Trois invités pour en débattre avec nous. Kamal Ben Hameda, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Vous êtes Kamal Ben Hameda, écrivain libyen, en ligne avec nous depuis la France. Merci d'être avec nous. Soumeilou Boubeï Maïga, bonjour.
Oui, bonjour.
Soumeilou Boubeï Maïga, vous êtes ancien ministre malien. Vous aviez occupé plusieurs portefeuilles, dont la primature, la diplomatie et la défense. Ancien chef aussi des renseignements maliens. Vous avez créé l'Observatoire de géopolitique et de stratégie pour le Sahel. Et Ulrich Delius, bonjour.
Bonjour.
Ulrich Delius, vous êtes un expert allemand, directeur de l'Association pour la défense des peuples menacés, une organisation de la société civile basée à Göttingen, dans le centre de l'Allemagne. Au micro, Fréjus Kenhomme, merci à tous nos invités et à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour cette émission. DW. À Berlin, lors de la conférence sur la Libye qui a eu lieu dimanche 19 janvier, des engagements ont été pris pour un cessez-le-feu. Alors, faut-il envoyer des soldats pour faire respecter ce cessez-le-feu? Kamal Ben Hameda, vous êtes libyen. Question, est-ce qu'il faut envoyer des troupes internationales?
Moi, je suis d'accord avec cette option, car les pourparlers n'ont abouti à rien. Ils ne peuvent pas, les deux parties ne peuvent pas. De même, il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de discussion. Et donc, pas de troupes me paraît la meilleure option.
Soumeilou Boubeï Maïga, un cessez-le-feu à faire respecter, il faut envoyer des troupes et ce serait une solution pertinente. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça, de toute façon, concernant la situation en Libye, je pense qu'il y a deux défis majeurs. Le premier défi, c'est quelle est la vision commune des Libyens par rapport à leur propre pays, parce que toute médiation suppose que les parties en conflit ont au moins la volonté d'arriver à des compromis et de faire la paix. Or, pour le moment, on a bien vu qu'il y a beaucoup de difficultés à les faire asseoir, à se parler, ainsi de suite. Le deuxième défi, c'est que la communauté internationale puisse aussi avoir une approche commune du problème. Or, vous savez, c'est une situation à plusieurs problèmes. Il y a d'abord plusieurs rentes que les parties libyennes essayent chacune de gérer. La rente liée aux ressources naturelles, le pétrole et le gaz. La rente liée au fait d'être un pays important dans le transit des migrations envers l'Europe, ce qui a amené la Libye à avoir un statut privilégié vis-à-vis de l'Europe, quand bien même par rapport aux droits humains, la Libye n'était pas un modèle ni sous Kadhafi ni actuellement. Bon, et puis le troisième défi, c'est pour les pays qui sont au sud de la Libye, c'est-à-dire les pays africains qui sont dans le Sahel et qui eux, reçoivent le contre-coup de la crise libyenne, mais sous forme d'une grande déstabilisation sécuritaire. Donc, pour que la communauté internationale puisse envoyer des troupes, il faut déjà qu'elles s'entendent sur quel est l'objectif à atteindre.
Et au lendemain de la conférence de Berlin, on a l'impression que la balle a été renvoyée dans le camp de l'ONU, alors que là-bas aussi, les gens ne parlent pas le même langage. Ulrich Delius, expert allemand, vous êtes le président de l'Association pour la défense des peuples menacés. Le peuple libyen qui, disait-on, était menacé, c'était ce qui justifiait les opérations contre le régime Muammar Kadhafi. mais ce peuple reste menacé avec des droits humains qui continuent d'être violés, disait tout à l'heure Soumelou Boubeï Maïga. Quelle est votre lecture de cette situation, monsieur Delius?
Notre impression, c'est que pendant des années, on a plus ou moins ignoré la situation en Libye. Il y avait de temps en temps un scandale. En Europe, on parlait de la situation des réfugiés, de la torture et tout, dans les camps. Mais qu'est-ce qu'on a fait finalement pour éviter que la situation se dégrade de plus en plus? On n'a rien fait. Et là, tout le monde est d'accord qu'il faut stabiliser la Libye, mais quelle méthode est la meilleure? Et on n'est pas, même parmi les Européens, on n'est pas d'accord sur le chemin qu'on veut prendre, sur les défis qui se présentent et surtout sur les buts de l'action. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a tant de questions encore qui ne sont pas résolues. Prenons seulement la situation ou la prise de position des deux pays européens, l'Italie et la France. Ils ont des intérêts, des partenaires complètement différents dans le pays. Et alors le premier succès de Berlin, c'était qu'au moins les Européens en parlaient plutôt avec une voix à Berlin, pendant la conférence. Mais quand on commencera à parler de la stabilisation en envoyant des soldats, alors là, je vois des grands problèmes. Il n'y a aucune autre alternative que d'envoyer des soldats, parce que la première chose qui était positive, qu'on a commencé à parler ensemble, mais ce qu'on a mis sur papier, c'est pas tellement réaliste, il faut le dire. Alors, tous ceux qu'on peut accuser de l'ingérence dans les affaires libyennes sont vraiment des, on dirait, les bad guys du monde international, Poutine et Erdogan, et on ne peut pas compter sur eux. Alors, si on n'a pas des troupes de l'ONU ou de l'Union européenne en Libye, je vois aucune chance pour la réalisation de ce qui a été discuté et convenu à Berlin.
Oui, mais tout à l'heure, on va voir avec M. Kamal Benhamada ce qui se dit au sein de l'opinion libyenne. Est-ce que les gens ont une préférence pour une telle solution ou une telle autre? On le verra. Mais d'abord, rapidement, M. Boubeï Maïga, parlant de l'envoi de troupes, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Heiko Maas, a dit qu'il faudrait se baser sur l'Union africaine. Mais est-ce que l'Union africaine a une quelconque force sur cette question, M. Boubeï Maïga?
L'Union africaine n'a pas pu avoir un impact. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères en 2011-2012. J'étais membre de contact pour la Libye. Nous étions allés à Tripoli, puis à Benghazi au mois d'avril 2011. Et puis après, tout le monde a vu comment ça s'est, la situation s'est accélérée, malgré les prises de position de l'Union africaine à l'époque. Et toutes les solutions qui sont actuellement envisagées, mais je ne pense pas qu'elles intègrent forcément le rôle de l'Union africaine, encore que l'Union africaine a mandaté le président Sassou pour diriger une équipe de haut niveau. Mais de toute évidence, on ne peut pas régler la situation en Libye sans implication des pays africains. Bon, d'abord, la Libye est malgré, il faut quand même le rappeler, même si c'est évident que la Libye est un pays africain. Et donc, on ne peut pas régler cette situation-là sans le concours des autres pays.
Il est vrai que l'élite politique libyenne semble ne pas accorder trop d'importance non plus, excusez du peu, aux dirigeants africains.
Déjà du temps de Kadhafi, on savait que Kadhafi et puis l'équipe qui était autour de lui avaient plus de penchant vers une politique panafricaniste que peut-être une bonne partie de l'élite libyenne. Bon, c'est peut-être dû à la situation géographique de la Libye, à son évolution historique. Mais toujours est-il que les États qui paient les conséquences de la situation en Libye sur leur plan intérieur, c'est quand même les pays africains. L'Algérie et puis toute la bande sahélo-saharienne, y compris jusqu'aujourd'hui dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne vois pas de solution en Libye qui n'intègre pas l'Union africaine. Oui. Et les Africains.
Dans le même temps, il faut souligner que les pays africains qui sont voisins de la Libye ont le problème du terrorisme, eux-mêmes peinent à trouver une solution déjà.
Ah oui, c'est sûr que ce n'est pas sur eux qu'il faut compter pour fournir des troupes, ça voilà. C'est évident. Mais c'est déjà bien que sur le plan diplomatique, les Africains puissent contribuer à la solution diplomatique et à la solution politique.
On va voir, Kamal Benhamada, ce que vous pensez, parce que tout à l'heure, M. Boubeï Maïga s'interrogeait sur l'existence d'une vision commune au sein même de la Libye. Vous qui êtes plus proche de la Libye, que pensez-vous de ce que disent les Libyens eux-mêmes?
Vous savez, la Libye, c'est une création ou une fabrication, comme beaucoup de pays africains. En 63, le roi a unifié le sud de l'Est, donc la Tripolitaine et la région de Barka et le Sud-Sézan, dans un royaume uni. En fait, sans demander l'avis des habitants, il y avait des Touaregs dans le sud, toute la région berbérophone ou amazir dans l'Ouest de Tripolis, voire la montagne de Nafusa, et donc les tribus de l'Est. Il n'y a eu jamais de dialogue, vraiment. Les gens ne se connaissaient pas. La Libye, ça a été... Voilà, vous êtes ensemble, vous êtes libyens, voilà. Haftar a créé avec ça quelque chose, un point de non-retour. Les gens ne se parlent pas. Moi, je connais des gens de Benghazi, de l'Est, insultent les Tripolitains. Même ici, en France, en Europe, ils ne peuvent pas, ils peuvent aller même jusqu'aux mains. Et donc, il y a une coupure.
Et il n'y a pas de société civile qui fédère un peu les sensibilités?
Non, il n'y a pas de dialogue entre l'Est et l'Ouest. Et donc, moi, ce que me semble logique, la stabilisation ne pourrait venir que par une partie neutre. Ce parti neutre, entre guillemets, c'est les troupes, les casques bleus. C'est obliger les partis, les belligérants, et puis faire une sorte de carte, un plan de route. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Gaddafi a créé, au bout de 42 ans de pouvoir, un vide. Il n'y a pas de société civile. Les intellectuels, les partis étaient déçus, étaient à l'étranger. À l'intérieur, il n'y avait que le courant islamiste ou bien les libéraux. Et donc, il y avait un grand vide. Et dans ce grand vide, dans ce pays de grand vide, dans ce grand vide, il fallait commencer. Et donc, cette idée d'envoi des casques bleus, c'est l'idée de demander aux gens s'ils veulent vivre ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de pays, des forces comme la France, intéressées par leur deuxième grand réserve d'or en Afrique, dans l'Aouinat du sud-est libyen, les Russes, chaque pays, les Émirats, jusqu'à maintenant, continuent à soutenir Haftar parce que la stabilité politique et démocratique en Libye, c'est la fin, c'est la mort de l'Émirat.
Monsieur Ben Hameda, si vous permettez, donc vous avez cité des acteurs et des intérêts, chaque acteur avec ses intérêts. Une question à Ulrich Delius. On voit que l'Allemagne, qui n'avait pas directement participé à la guerre contre Muammar Kadhafi en 2011, essaie de faire quelque chose. Elle a abrité la conférence dont on parlait tout à l'heure. Mais de quels moyens de pression dispose l'Allemagne concrètement? Et comment est-ce que les Allemands apprécient-ils l'engagement de leur chancelière anglaise? La Merkel.
Pratiquement, l'Allemagne n'a aucun moyen de faire pression sur les acteurs en Libye, surtout aussi sur ceux qui sont derrière les lignes, comme la Russie, comme la Turquie et d'autres États au Proche-Orient. Et ça, c'est un grand problème. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla qu'on a entendu de la part de nos responsables, de notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi de la chancelière, qui n'est pas très réaliste. On parle d'un côté qu'il faut trouver une solution africaine, mais d'un autre point de vue, on n'invite pas la Tunisie, on n'invite pas l'Algérie, on n'invite pas la Grèce, on n'invite pas la Chypre. Alors, ce sont ces États-là qui sont directement concernés aussi. Alors, est-ce qu'on prend vraiment cette recherche d'une solution africaine aussi au sérieux? Comment on peut inciter les États africains de s'engager plus? Ça ne doit pas rester seulement une belle présentation dans le grand public. Oui, dès que je suis au ministère des Affaires étrangères, et j'entends la recherche des solutions de paix en Afrique, ça se fait par les États africains. Mais quand est-ce qu'ils le font vraiment? Je ne le vois pas. C'est aussi un grand problème quand on a tous ces acteurs, les grands acteurs dans le monde arabe en ce moment, comme la Russie, comme la Turquie. Comment on veut faire pression sur eux? Parce que ce sont eux qui font pression sur nous. Par exemple, Erdogan joue toujours avec la question de migration. Il peut ouvrir les frontières pour les réfugiés qui viennent de la Syrie, pour les laisser partir en Europe. Et c'est ça, c'est lui qui a les moyens de pression, et pas nous en Europe. Et ça, c'est un grand problème. On a vraiment des alliés sur lesquels on ne peut pas du tout compter.
Oui, c'est vrai que Fayez al-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d'Union, menace également. Donc, il brandit le risque que jusqu'à 800 000 migrants pourraient sortir et envahir l'Europe. Donc, c'est autant de choses qui inquiètent l'Union européenne, surtout l'Allemagne. Mais Soubeilou Bimaïga, est-ce que peut-être il y a une solution depuis l'intérieur de la Libye? Parce qu'on sait, que Khalifa Haftar, avant de démarrer son action, s'est vu refuser de prendre la direction de l'armée libyenne. Lui et certains officiers de l'armée se sont reconstitués pour chercher le pouvoir, le récupérer des mains des intellectuels, des civils qui sont là actuellement et proches des frères musulmans.
Non, je pense que l'idéal serait qu'il puisse y avoir probablement une équipe de transition qui dirige le pays sur la base d'une feuille de route convenue avec la communauté internationale. Et que sur cette base, plusieurs acteurs libyens puissent se rencontrer, non seulement les partis qui sont actuellement en conflit, mais aussi tous les acteurs politiques et sociaux qui ont de l'influence. Je me souviens qu'à un moment donné, l'Algérie avait à deux reprises ou trois reprises réuni des chefs de tribu, des chefs de fraction. Maintenant, c'est évident que tant que chaque partie sait le bénéfice qu'elle peut tirer du contrôle d'un certain nombre de rentes, eh bien, ils vont jouer la surenchère. Sarraj a pour lui la reconnaissance par l'ONU, a les migrants chez lui, l'autre contrôle des puits de pétrole. Donc, c'est une situation assez confuse. Il faut déjà pouvoir quand même les mettre ensemble sur une feuille de route minimale qui ouvrirait la voie à une transition assez longue, une transition institutionnelle. Et mais ça, je crois que c'est une partie quand même qui est très, très complexe. Et moi, je suis extrêmement prudent sur les prévisions concernant ce pays-là.
Oui. Kamal Ben Ahmeda, que pensez-vous donc du rôle de l'Algérie ou du rôle que pourrait jouer l'Algérie? L'Algérie a également sur son sol beaucoup de migrants, beaucoup de réfugiés libyens. Est-ce que l'Algérie pourrait faire quelque chose?
C'est une longue frontière, c'est vrai, entre la Libye et l'Algérie.
On parle de 1000 kilomètres de frontière entre...
Oui, et puis l'Algérie, les Algériens ont envoyé il y a quelques jours 280 tonnes pour soutenir la population de Tripolitaine, qui vit dans une situation vraiment catastrophique.
Des tonnes de vivres, vous voulez dire?
De nourriture et de vivres. Et l'Algérie soutient, à mon sens, même le dit pas publiquement, elle soutient le gouvernement de Sarraj, car ils voient de mauvais œil l'installation de Haftar à Tripoli.
Mais justement, est-ce que ces deux hommes sont tous propres? Est-ce qu'ils ont les mains propres? Ils ont pris en otage, vous le disiez tout à l'heure, un peu la révolution, non?
Mais ce qui fait que moi, c'est mon point de vue, il y a une révolution. La révolution de février n'a pas encore abouti et est toujours en marche. Gaddafi est mort, mais les gaddafistes sont légion et c'est eux qui misent sur le retour d'Haftar au pouvoir. Donc l'État libyen même, entre guillemets l'État, ce qu'il en reste, est tenu de ministre des Affaires étrangères jusqu'aux grands fonctionnaires. Ils sont tous des pro-gaddafistes, des gens qui ont travaillé, tous font carrière sous Gaddafi, avec Gaddafi.
Et vous disiez, Ben Hameda, quand nous préparions cette émission, que Fayez al-Sarraj est peut-être un peu la version soft, on va dire, de Kadhafi, et que Khalifa Haftar est un peu la version militaire de Kadhafi. Donc les deux représentent quand même, d'une manière ou d'une autre, le régime qui a été vomi il y a des années.
Gaddafi, comme je dis, Gaddafi est mort. Je l'ai dit depuis longtemps, la révolution a été volée, mais la révolution est toujours marche parce que il y a beaucoup de gens et des jeunes qui croient qu'en Libye, on pourra faire un jour une société civile démocratique. Mais ça, c'est ceux qui prennent les armes maintenant à Tripoli. C'est ça leur projet. Parce que la chute de Tripoli, c'est retour à un scénario atroce comme en Irak et dans d'autres pays. La contre-révolution, les Égyptiens, si, s'ils veulent avoir un souci à Tripoli. Les Émirats et les pays de l'Arabie Saoudite n'ont pas intérêt à avoir triomphé une révolution démocratique à l'instar de ce que se passe et réussir comme
en Tunisie.
C'est le cas pour le moment en Tunisie.
Oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une question pour faire le tour de table, le dernier tour de table. D'abord, Soumeilou Boubey Maïga, est-ce qu'on peut dire que finalement la Libye est victime de sa richesse, richesse en pétrole, peut-être aussi en gaz, richesse en or, l'indiquait Kamal Ben Hameda tout à l'heure?
Bon, elle est victime sûrement de tous ces facteurs et puis de sa position géographique, parce que c'est quand même une porte d'entrée sur un espace qui est assez vaste, comme le Sahel et l'Afrique du Nord. Victime peut-être du fait que les forces politiques novatrices n'étaient pas en avant dans le processus à l'occasion de la chute de Kadhafi, parce que on oublie souvent de signaler que ce sont les velléités d'inclure des islamistes dits modérés dans le processus institutionnel. Ces velléités-là ont été pour quelque chose aussi dans la déstabilisation de la Libye, mais ça, c'est un autre débat, quoi. Mmh. Mais pour le moment, je constate que c'est un pays sur lequel, honnêtement, ce serait extrêmement hasardeux de faire quelques prévisions que ce soit, parce qu'on ne voit pas d'acteurs politiques vraiment qui aient une feuille de route claire pour le pays. C'est à quoi nous assistons. C'est des affrontements pour le partage, pour le contrôle et le partage des richesses de la Libye. La marchandisation de la position géographique et géopolitique de la Libye.
Voilà, je rappelle que la Libye fait frontière avec 6 pays africains et oui. puis la façade maritime également. Ulrich Delius, est-ce que la Libye est victime de ses richesses, de sa position géopolitique?
Oui, c'est sans doute un facteur très important que toutes ces ressources ont provoqué des conflits depuis des années, ou déjà dans le temps avant la chute de Kadhafi, c'était déjà un grand problème. Il y avait toujours les conflits. Après aussi, les conflits autour du contrôle des champs de pétroliers entre les différents miliciens de Toubou, Touareg ou qui. Et je crois que c'est aussi victime de sa situation stratégique, parce que je vois le plus grand problème en ce moment, pas parmi les Libyens, mais plutôt ceux qui essayent d'utiliser la situation pour leurs propres intérêts. C'est toutes ces puissances internationales. Et je vois un peu un spectre comme au Congo, ce qu'on a vu, une grande guerre, bon, où on a tant d'acteurs internationaux qui se mettent à utiliser des forces sur place pour leurs propres intérêts. Mmh. Et la situation en Syrie a l'air de se répéter, et c'est pour ça que c'est extrêmement important maintenant de mettre en garde toutes ces forces extérieures. Tous ceux qui ont promis quelque chose, ils ont menti des maintes fois. Alors pourquoi il faut leur croire cette fois?
Merci beaucoup, Ulrich Delius. Kamal Ben Hameda, vous avez le dernier mot avec cette question. Vous est-il déjà arrivé peut-être de regretter qu'il y ait eu cette opération il y a 9 ans environ contre Muammar Kadhafi?
Ah oui, non, exactement. En 2011, il y avait l'initiative de l'Union africaine qui a été mise de côté. Et l'Union africaine et les Africains n'ont pas eu voix au chapitre. Mmh. C'était dommage parce que c'était une solution de conflit. Les Libyens, moi, il faut se rappeler cette époque-là, les Libyens, ils ne voulaient plus de Gaddafi, ils ne voulaient plus de... Après 42 ans, avec tout le mal qu'elle a fait des générations perdues, infrastructures inexistantes, on ne va pas revenir sur ce que Gaddafi, le mal qu'il a fait au pays. On regrette le fait que les Libyens ne sont pas arrivés à discuter ensemble, ou bien à ce moment-là à affronter les problèmes en interne, entre eux. Les Libyens, vous savez, ils manquent d'expérience politique. Il n'y a jamais eu des partis politiques réels sous Idriss ou sous Kadhafi, ce qui fait que les Libyens, dès que quelqu'un leur tend la main, sans se rendre compte des conséquences. Conséquence à force, ils n'ont jamais pensé que l'OTAN était là pour défendre les intérêts de l'Occident et non pour une organisation humanitaire pour remettre la marche vers des démocraties des pays défaillants. Et tant que ça, la faute, c'était de ne pas avoir pu dialoguer ensemble. Les Algériens, ils ont refusé, ils ont appris de la leçon libyenne avec leur Al-Harat, c'est-à-dire leur mouvement l'année dernière et maintenant, pas le premier mot des manifestants, nous ne voulons pas d'intervention étrangère contre Bouteflika et après. Et ça, les Libyens ont manqué une occasion historique pour se réconcilier et pour résoudre leurs problèmes eux-mêmes.
Voilà. Mais merci beaucoup. Merci Kamal Ben Hameda. Vous êtes Libyen, écrivain. Soumeilou Boubey Maïga, ancien ministre malien et président de l'Observatoire de géopolitique et de stratégie pour le Sahel. Et Ulrich Delius, directeur de l'Association pour la défense des peuples menacés. Merci à tous les trois d'être venus partager avec nous vos points de vue. La Libye n'est pas encore sortie de l'ornière et la plus difficile question, c'est celle de trouver une solution pour faire respecter le cessez-le-feu entre les différents belligérants et les divisions au sein de la communauté internationale ne sont pas pour faciliter les choses. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir de cette émission animée par Fréjus Kenom. Merci d'avoir été à l'écoute du début jusqu'à maintenant et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabre.
Merci à vous.
Oui, merci beaucoup. Voilà, à la prochaine.
Merci, à la prochaine. Au revoir.